RCF. Marc-Alain Wakenin, il y a chez vous le rabbin, érudit, philosophe, spécialiste aussi bien d'Emmanuel Levinas que de Rabbi Nachman de Bratslav, du Talmud que de la Kabbale. Avec le projet Targoum, vous, le traducteur passionné, vous êtes lancé dans une nouvelle traduction de la Bible hébraïque, la Torah. Vous venez d'ailleurs de publier les 11 premiers chapitres de la Genèse dans un livre magnifique, La Genèse de la Genèse, illustré par l'abstraction aux éditions Diane de Sellier. Mais Marc-Alain Wakenin, vous êtes également un vulgarisateur qui a plaisir, je dirais presque un plaisir jubilatoire, à partager vos connaissances avec le grand public, soit dans votre émission talmudique le dimanche matin sur France Culture, soit dans des livres comme La Torah expliquée aux enfants ou encore Dieu et l'art de la pêche à la ligne aux éditions Bayard. Alors, Rabbin Marc-Alain Wakenin, nous allons passer une heure ensemble pour faire votre connaissance et parler de tout ce qui vous anime. Commençons par votre nom, Wakenin. Quelle en est l'origine ?
Wakenin, c'est un nom berbère. Tous les noms en wa sont berbères. Wa, ça veut dire fils de. En arabe, on retrouve Wald. Par exemple, Wanounou, Walid, Wakenin. Et pour faire rire mon interlocuteur, en général, je dis Walt Disney. Mais
non, ça marche
voilà,
pas.
Mais ça marche pas.
Et donc berbère, Afrique du Nord, Afrique vous, du Nord, c'est plutôt quoi, Algérie, Maroc.
C'est complètement Maroc. Mm-hmm. Et Aknin, ça veut dire en berbère toujours petit Jacob. Donc, si je traduisais ça en russe ou en anglais, c'est l'équivalent de Jean Kelevitch ou de Jacobson.
Donc là, ce sont vos racines paternelles, c'est-à-dire racines paternelles séfarades.
Hein. Séfarades, c'est-à-dire pas vraiment séfarades, parce que si c'était séfarades, ça veut dire qu'ils auraient été originaires d'Espagne et migrés de l'Espagne vers le Maroc en 1492, ce qui est possible aussi. Mais à ce moment-là, ils auraient porté, je pense, un nom espagnol, comme les Toledano ou d'autres personnes.
Ce qui veut dire que vous êtes des Juifs qui étaient là avant.
Voilà, c'est-à-dire que d'après Maroc, ce que mon grand-père est né à Demnat, dans l'Atlas, petit village à 986 mètres de l'Atlas. Et donc, il y a une tradition qui dit que la Kaïna, qui est une reine berbère, s'est convertie avec tout un ensemble de berbères, enfin son peuple, se convertit au judaïsme. Donc c'est très possible que les ancêtres ne fussent pas juifs, mais que c'est des gens qui sont venus au judaïsme par ce biais-là. Et après, mon grand-père est descendu de la montagne et s'est installé dans le Mela de Marrakech, où mon père est né à Marrakech en 1932. Voilà.
Votre père, le grand rabbin.
Le grand rabbin de Marseille que je salue quand il écoutera cette émission. Voilà, parce que maintenant il est à Jérusalem.
Par internet, il pourra écouter cette émission. Voilà. On lui transmettra le lien et on le salue fraternellement et respectueusement. Alors, vous êtes séfarade du côté de votre père, mais vous êtes aussi ashkénaze du côté maternel.
Oui.
Intéressant, la rencontre entre les deux grands courants juifs.
Oui, c'est très intéressant. Je pense que existentiellement, c'est quelque chose qui me porte à chaque instant, si on peut dire. Ma mère, donc, son père était alsacien, mais alsacien né allemand. C'est-à-dire en 1896 exactement, né dans un petit village qui s'appelle Erlisheim, c'est au nord de Strasbourg. Et ma grand-mère est née au Luxembourg, à Ettelbruck. Et ses parents étaient nés aussi à Ettelbruck, mais mon arrière-arrière-grand-père, donc ça je le sais depuis peu, était né dans un petit village à côté de Trèves qui s'appelle Ach, A-A-C-H. Et donc, c'est vraiment des Allemands. C'est-à-dire que c'est pas les Juifs ashkénazes d'origine polonaise ou russe, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle, en yiddish, on appelle ça des yekeux. Yekeux, ça veut dire vraiment Juifs allemands. Voilà.
Alors vous, Rabbin Marc-Alain Wakenin, vous êtes né en 1957 en France. enfant, vous baigniez déjà dans ces deux cultures, et je dirais dans ces langues qui vont avec ces deux cultures différentes.
Oui, parce que c'est pour ça que je dis que ça me touche, je dirais, chaque jour, parce que ça va orienter, on va dire, presque toute mon existence, dans la mesure où ma passion, c'est l'étude, mais c'est surtout la traduction. Et la traduction, c'est vraiment un passage entre les langues. Et je pense que d'avoir baigné mes grands-parents que j'ai connus des deux côtés, parler soit en judéo-alsacien, soit en allemand entre eux. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que mon grand-père, quand il parlait français, le parlait avec un accent alsacien éminemment prononcé. Et du côté de mon père, mes grands-parents parlaient, au Maroc, on parlait très très bien français, mais teinté d'expressions judéo-arabes. Et j'ai très bien connu aussi ce grand-père marocain qui est venu habiter chez nous à la maison. Donc, si vous voulez, moi, je me vis véritablement, non pas dans une tension, parce que une tension, c'est quelque chose d'un peu douloureux, mais dans un équilibre ou dans un voyage permanent entre le nord et le sud, entre le soleil du Maroc et les brumes allemandes. Et je me sens très bien dans cet entre-deux, et je pense que j'aurais été malheureux, je crois. Maintenant, si je n'avais été que ensoleillé ou que brumeux, j'ai besoin des deux paysages.
Et le fait d'être dans la traduction en permanence, parce que vous deviez traduire, vous consacrez votre vie à la traduction. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Le fait de voilà.
Ça
traduire,
suscite, ça suscite quelque chose que. Enfin, c'est vraiment extraordinaire parce que ça suscite une joie qui est plus qu'une joie, qui est une réelle jubilation, qui est plus qu'une jubilation parce que c'est à la fois une sorte de danse de l'esprit intellectuel et du corps. Je dis toujours, ça fait sourire, mais je le dis parce que c'est pas un tic de langage, mais c'est une image que j'utilise et qui fonctionne bien. À chaque fois que j'innove dans un commentaire et que c'est tellement extraordinaire, je dis, je vais aller ouvrir tous les magasins Repetto pour acheter des ballerines pour danser, tellement on est joyeux.
C'est intéressant parce que la dimension corporelle est très importante et dans le judaïsme. Quand vous priez, vous bougez et même vous dansez.
On danse, mais je crois qu'il y a une danse de la traduction, il y a une danse de l'esprit qui n'est pas qu'une danse de l'esprit, qui est véritablement une danse du corps.
David qui dansait autour de l'arche.
Voilà, même si Michal, sa femme, n'était pas heureuse. Je pense que la danse est essentielle, mais je reviens un petit peu sur la joie, si ça vous dérange pas. La joie de la traduction. Parce que, même scientifiquement, ça a été découvert, c'est que quand on est bilingue, quand on passe d'une langue à l'autre, ça développe une hormone de plaisir. Mais ça, je l'ai vérifié. J'enseigne en Israël, à l'université de Bar-Ilan, et j'ai enseigné pendant 20 ans, ma spécialité, c'est l'œuvre de Kafka, d'un point de vue en dehors de la Bible. Et je prépare mon cours en français, chez moi dans mon bureau, mais j'ai l'original en allemand, pour comparer avec la traduction française. Mais quand j'enseigne en hébreu. Et très souvent, j'amène des commentaires en anglais. Et je vois que dans la classe, si vous voulez, circule cette jubilation de l'esprit et du corps.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors, Rabbin Marc-Alain Wakening, on va partager cette joie de la traduction tout à l'heure en parlant du dernier travail que vous avez mené, la traduction de la Genèse, que vous venez de publier aux éditions Diane de Sellier. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle un peu plus de vous, qu'on fasse davantage connaissance avec vous. Vous êtes le fils, on l'a dit, du grand rabbin Jacques Wakening, qui a été le grand rabbin de Marseille. On devient naturellement rabbin quand dans sa famille, on a son père rabbin, on a des ancêtres rabbins.
Non.
Vous auriez pu faire autre chose que
complètement.
Rabbin. Vous n'étiez pas obligé.
Non, j'étais pas obligé. Moi, je dirais que je suis le fils du grand rabbin de Marseille. Mais je rappelle cette phrase qui dit que derrière tout grand homme, il y a une femme qui se cache. Et je suis aussi le fils de la grande rabbine, puisque la femme du rabbin s'appelle rabbine. Et elle a un titre aussi qu'on utilise plus en yiddish comme Rebetzin, c'est-à-dire la femme du rabbin. Mais ma mère était prof d'anglais Et je crois que ça s'est ajouté énormément à la question de la langue, parce que quand on a dû faire des études dès la sixième, on a appris l'allemand, mais aussi l'anglais, aussi le latin, aussi le grec. Et ça, c'est vraiment notre mère qui nous a poussés dans ce polyglottisme, si on peut dire. Et je crois que ce qui est très important, c'est que à la fois mon père et à la fois ma mère, et ça je l'ai vérifié jusqu'à aujourd'hui, sont des très grands enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont un don pour l'enseignement, c'est-à-dire faire passer des choses très compliquées de manière extrêmement simple.
Ce que vous faites, ce que vous êtes aussi. Vous êtes rabbin, mais vous êtes aussi un enseignant.
Oui, tout à fait, mais je pense que c'est un don. Et un don, c'est quelque chose que l'on hérite, et je suis conscient que j'ai hérité de ce don de mes parents. Alors, moi, j'ai été formé très tôt à la lecture des textes. Je pense que j'ai appris l'hébreu en même temps que le français, peut-être à lire, peut-être même l'hébreu avant le français. Et j'ai été à la yeshiva, c'est l'académie talmudique, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Vous continuez.
J'ai continué. Donc, normalement, j'étais vraiment déjà lancé sur cette voie des textes, de l'interprétation, mais j'ai voulu faire médecine. Donc, j'ai fait 2 ans de médecine à Strasbourg. Et puis, après de longues discussions avec le prof d'anatomie qui s'appelait Monsieur Sick, il m'a dit, je sens que vous êtes fait pour la philosophie. Donc, je me suis engagé vers la philosophie. Et mon père m'a dit à ce moment-là une chose extraordinairement importante jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, le poids de ta parole sera beaucoup plus grand si tu es aussi rabbin, parce que on parle pas du même lieu. Il y a une sorte de légitimité qui est complètement différente. Donc, j'ai fait l'école rabbinique à Paris. Et en même temps, un doctorat de philosophie.
Vous vouliez guérir les corps en tant que médecin, vous voulez guérir les âmes en tant que rabbin ?
Complètement. C'est-à-dire que les âmes, c'est un peu prétentieux, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une âme, mais je voulais faire psychiatre. Et avec le temps, je me suis dirigé vers ce que j'ai appelé la bibliothérapie, qui est un de mes livres, et je crois que j'ai eu la chance vraiment d'initier la bibliothérapie en France.
C'est-à-dire que les livres ont le pouvoir de guérir.
Alors, c'est justement, il y a différents courants dans la bibliothérapie. Il y a une bibliothérapie américaine, anglo-saxonne, qu'on retrouve aussi en Israël, qui est très pragmatique. C'est-à-dire, si un enfant fait pipi au lit, il lit telle histoire, et normalement, ça le guérit. Moi, j'ai développé une bibliothérapie, je dirais, herméneutique. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas seulement la lecture qui guérit, mais c'est l'interprétation des textes, parce que il y a quelque chose qui dénoue. Il y a un dénouement de la bouche, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez deux maîtres extrêmement importants. D'abord dans le Talmud, où il est dit qu'il y a un fleuve qui sort, donc on cite le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 12, qui dit qu'il y a un fleuve qui sort du temple, et sur ce fleuve, il y a des rives où il y a des arbres, où les feuilles ne flétriront pas et les fruits ne flétriront pas, et il y a cette formule, et les feuilles sont pour la guérison. En hébreu, aleu literufa. Les feuilles, c'est-à-dire, dit le commentaire, les feuilles de l'arbre, mais aussi les feuilles du livre. Et donc, il y a une idée que le livre guérit.
Mais le livre guérit que si on l'interprète. C'est-à-dire qu'il y a une dimension active. On n'est pas passif à seulement recevoir l'histoire.
Voilà.
On doit l'interpréter, et c'est l'interprétation qui va participer à la guérison.
Exactement. Alors, il y a un jeu de mots, le Talmud dit, mais d'abord, il y a une question très importante. Le verset dit, et les feuilles vont aller où l'iteroufa? Et teroufa, comme on l'entend, on se demande, mais est-ce que c'est un mot hébreu? Et on déduit que non, c'est pas de l'hébreu, c'est du grec. Ça vient de thérapeia, tout simplement, teroufa. Le mot thérapeia est passé en hébreu.
Ouais, attendez, excusez-moi, ce que vous venez de nous dire là est valable pour des livres, je dirais, de philosophie ou des légendes ou des récits, mais aussi c'est valable pour la Torah.
Oui.
C'est valable pour les chrétiens, les évangiles. Il faut toujours être actif, il faut toujours interpréter ces textes.
Complètement. C'est-à-dire, quand Jésus guérit, par exemple, dans Marc 5, quand il guérit la fille du chef de la synagogue, il lui dit Talitha koumi,
petite fille,
lève-toi, petite fille. C'est pas simplement par le fait qu'il lui dise lève-toi, petite fille, c'est que déjà, ce qui est très intéressant par rapport à notre propos, qui est la traduction, c'est que dans le texte de l'évangile, ce texte-là est en grec. Mais le mot qui va guérir, Talita Kumi, c'est en hébreu ou en araméen. Et donc, moi, je dis, quand je fais des commentaires sur l'évangile, que un des pouvoirs essentiels de Jésus dans les évangiles, c'est de guérir par la traduction. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans le verset d'Ézéchiel que je viens de citer, le texte est en teroupha, est un mot grec, et tous les commentateurs se posent la question, l'hébreu a un mot pour dire la guérison, pourquoi on a besoin de passer par le grec? Et la réponse est très simple, c'est que c'est la traduction qui guérit, c'est-à-dire le fait de passer d'une langue à l'autre, c'est passer d'une culture à l'autre, et que la maladie, c'est une forme d'enfermement, et que la traduction, c'est une forme d'ouverture, d'où cette notion de guérison.
Rabbin Marc-Alain Wachnin, cette ouverture à l'autre, cette prise de conscience de la richesse, de la différence finalement, moi m'a sauté aux yeux quand je suis allé à Jérusalem et que j'ai visité le musée d'Israël, le musée national d'Israël. Et pour la première fois, j'avais devant mes yeux l'incroyable diversité du monde juif. Juif éthiopien, juif d'Ouzbékistan, juif de Pologne, juif du Maghreb. J'ai vu cette diversité des costumes, des langues, de la nourriture. Et là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Alors, j'ai la chance de vous avoir, vous, juif, rabbin, devant moi. Vous pouvez me dire ce qu'est être juif quand on est face à cette incroyable diversité de la diaspora juive?
Alors, on pourrait poser la même question par rapport au christianisme, je pense. Ce qui fait le fondement ou la fondation ou le ciment entre toutes ces diversités, c'est évidemment le texte. C'est-à-dire le texte de la Torah qui offre ce que Ricoeur a appelé merveilleusement cette identité narrative. C'est-à-dire que je définis mon identité par rapport à l'histoire que je raconte.
Donc d'abord la Torah.
D'abord la Bible. Ce qu'on appelle la Bible, l'Ancien Testament et en particulier les 5 livres de Moïse. Et dans toutes ces traditions, que ce soit l'Ouzbékistan, la Pologne, le fin fond du Yémen, tout le monde lit le même texte et avec le même rythme en plus. C'est-à-dire que tous les Shabbats, tous les samedis, on lit le même passage à travers le monde. Et donc, si par exemple, je prends l'avion et je rencontre un juif du Yémen, et puis dans le même avion, il y a un juif d'Australie et un juif d'Alaska, et ben on va pouvoir tous parler du même texte qu'on a lu le même samedi à la synagogue, et donc on est au même rythme d'une histoire. Et cette histoire, elle fonde cette identité collective, et ensuite, il y a eu une 2000 ans d'interprétation, qu'on a appelé le Talmud. Le Talmud, c'est la somme des interprétations de la Bible, et là aussi, le Talmud est unique. C'est-à-dire que c'est le même Talmud pour les Juifs du Maghreb ou pour les Juifs de Pologne ou de New York, d'Australie. Et il y a mieux encore, c'est que depuis le début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle le Dafayomi, c'est-à-dire le fait qu'on étudie dans tout le monde la même page du Talmud tous les jours. C'est-à-dire que moi je sais, si je rencontre quelqu'un, je vais à l'aéroport et je rencontre quelqu'un qui vient de New York, avant même de pouvoir parler de la pluie, du beau temps, je vais dire oui, mais dans la troisième ligne de la page d'aujourd'hui, comment vous avez compris le mot qui est un petit peu compliqué? Vous voyez, donc, en fait, c'est comme dit Kafka, et ça a été très très bien commenté par un des maîtres que j'admire le plus aujourd'hui, qui est George Steiner, la patrie du juif, c'est le livre. Et le lieu de la vie de tous les juifs, c'est le livre. Être juif, c'est lire, être juif, c'est interpréter, Et comme dit George Steiner, que je viens de citer, il dit c'est lire, mais un crayon à la main, pour pouvoir marquer dans la marge, à propos du texte qu'on est en train de lire, mais quelle bêtise, quelle idiotie. C'est-à-dire avoir la possibilité aussi de critiquer. Être juif, c'est la lecture, l'interprétation, plus l'esprit critique. Et il y a encore une dernière dimension, je vois que vous voulez que j'abrège un peu ma question, mais je vous donne quelque chose qui est très important, parce que pour moi, être juif, c'est pas une identité religieuse ni théologique, c'est une identité éthique. C'est-à-dire que le mot juif en hébreu, Yehudi, vient du verbe leodot, qui veut dire remercier. Et pour moi, je dis que est juif celui qui a de la gratitude, celui qui sait dire merci, qu'il soit juif ou pas, d'un point de vue religieux. Et un juif qui serait juif de tradition, mais qui ne sait pas dire merci, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est juif.
Oui, vous dites dans votre livre, dans l'introduction de cette traduction de la Genèse, vous dites que la racine du mot juif et du mot remerciement est le même. Et là, je me suis demandé, mais vous remerciez qui ? Ou quoi ?
C'est une très bonne question. On peut remercier beaucoup de monde. Mais je crois que on peut remercier Dieu, par exemple. La première phrase qu'on dit tous les matins en se levant, avant même de se lever d'ailleurs, dès qu'on met le pied par terre, on dit « Modéani ». Je te remercie, maître du monde, de m'avoir restitué l'âme que tu m'as prise pendant la nuit. Et le premier mot qui est prononcé tous les matins, modé, c'est le mot juif, c'est-à-dire je te remercie, c'est-à-dire je suis en train de juiver, si on peut dire, je te remercie. Et donc on peut remercier Dieu, mais je peux par exemple vous remercier de m'inviter dans cette émission, dans ce lieu magnifique de cette bibliothèque à Paris. Et je peux, par exemple, on a une tradition familiale où on remercie quelqu'un de particulier tous les matins, qui est un chanoine, le chanoine Vancourt, et son assistante, qui s'appelait Mademoiselle Raymonde, qui, pendant la guerre, a caché toute la famille de ma mère. Et s'il n'avait pas été là, donc c'était la résistance à Lille, avec Monsieur Le Canuet, Madame Le Canuet, il y avait Jean Grenier aussi. Et donc ce chanoine Vancourt, et donc on est une famille de...
Il a sauvé votre famille.
Il a sauvé...
Et si vous êtes là en face de moi,
voilà, c'est grâce au chanoine Vancourt.
Et vous le remerciez tous les matins?
Tous les matins, il y a une prière spéciale dans toute la famille, et on est une famille très nombreuse, parce qu'on est 5 enfants, mais chaque enfant a des dizaines d'enfants, et mon père doit avoir 300 petits-enfants, et tout le monde remercie le chanoine Vancourt, c'est une tradition. En 1973, il a été invité à Jérusalem, à Yad Vashem, pour planter deux arbres, qui sont maintenant des arbres qui font 50 mètres de haut.
Mais alors, Marc-Alain Wachnin, j'ai reçu souvent à ce micro des Juifs qui ne priaient pas, qui n'allaient jamais à la synagogue, qui ne lisaient pas la Torah, et qui se disaient Juifs. Ils disaient, je suis Juif, je pratique aucun commandement, je ne lis pas, je ne crois pas en Dieu, mais je suis Juif. Comment vous comprenez ça ?
Il y a un sentiment, si vous voulez, aussi, il y a une mémoire. Et la question de la, ce qui est important, je pense que vous soulevez un point essentiel, que c'est que le problème du judaïsme, le judaïsme n'est pas une religion. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est une culture, c'est une tradition culturelle avec une langue ou des langues, comme on l'a évoqué, que ce soit le yiddish, le judéo-alsacien, le judéo-arabe. Et moi, je dis toujours, c'était très important, c'est que c'est pas une religion et on n'est pas obligé de croire en l'existence de Dieu. Moi, je dis, par exemple, je suis athée, et pour le souligner avec humour, mais parce que c'est vraiment sérieux que je suis athée, je dis je suis athée, Dieu merci.
Vous dites je suis athée et croyant. Vous l'avez même décrit.
Oui, je suis aussi athée et croyant, mais je suis, je pense, plus athée que croyant.
Alors
parce
là,
que...
je suis sûr que nos auditeurs vont rien comprendre. Comment un rabbin peut-il être athée ?
Athée, ça veut dire que... Alors, je vais vous raconter une blague, enfin une histoire que mon ami Gérard Garouste m'a racontée, qu'il aime bien lui aussi. Puis après, je vais la commenter. Vous voyez, d'accord. Parce que même la blague, c'est comme comme un texte.
Il faut interpréter les
blagues juives. C'est un jeune homme qui est tout heureux. Il va voir le rabbi. Il dit, rabbi, vous savez, je suis athée. Alors le rabbi lui demande, tu as lu la Torah? Il fait non. Tu as lu le Talmud? Non. Tu as lu la Kabbale? Non. Tu as lu le chassidisme? Non. Alors le rabbi lui dit, excuse-moi, mais tu n'es pas athée, tu es ignorant. Voilà. Alors, l'athéisme, c'est une dimension qui dépasse il faut déjà être très savant pour être athée. Mais athée, ça veut dire que il y a deux formes d'athéisme. Il y a un athéisme théologique, et un athéisme, je dirais, de foi. Alors, je vous parlerai de l'athéisme théologique parce qu'il est très important et il peut répondre à de nombreuses questions théologiques comme pourquoi l'existence du mal, par exemple. Pour la Kabbale, le fait que Dieu soit infini, mais vraiment infini, il faut imaginer donner au mot infini toute sa force ontologique. Si Dieu est infini, il n'y a pas de place pour autre chose que lui-même. Donc le monde est impossible, vous-même est impossible, moi-même, notre émission, il n'y a pas de monde possible. Et les maîtres se sont posés la question, mais si le monde existe, c'est que Dieu s'est retiré de lui-même en lui-même.
Il y a un mot pour ça.
Voilà, il y a un mot, le retrait, qu'on appelle le tzimtzum.
Tzimtzum,
le retrait de Dieu. Et le retrait de Dieu, c'est un espace vide dans l'infini de Dieu, une sorte de bulle, une sorte d'espace vide de Dieu, qu'on appelle un espace athéologique, sans Dieu.
Donc Dieu s'est retiré pour nous laisser être.
Voilà, exactement. Dieu s'est retiré pour nous laisser être.
Cet athéisme dont vous parlez, c'est son absence.
C'est son absence. C'est-à-dire.
Et c'est une absence-présence.
Alors justement, c'est une absence-présence qui est complexe, puisque il y a trois moments importants dans l'histoire du judaïsme, comme dans l'histoire du christianisme. Vous avez la création, la révélation et la rédemption. Et selon la triade ou le triptyque de Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. La création, pour que le monde soit créé, il faut que Dieu se retire. Mais pour que Dieu se révèle, il faut qu'il revienne. Et donc, il revient sous forme de donation de la loi, c'est-à-dire, et ça c'est très important, de donation non pas de lui-même, comme dans le christianisme, dans l'incarnation.
Donc là, c'est le moment où Dieu a donné
la Torah au Sinaï,
à Moïse.
Voilà. Et donc, c'est le don de la loi, mais c'est surtout le don d'un texte. C'est-à-dire le don du livre, le don de l'écriture. Et à ce moment-là, quand Dieu est présent dans le livre, c'est-à-dire qu'il donne le livre, c'est sa révélation, il est à la fois absent, puisqu'il s'est retiré, et il est à la fois présent. Mais sa présence ne vient pas annuler son absence. Et donc on se retrouve dans une situation qui est très, là pour le coup, une véritable tension, qui est comment assumer en même temps, il n'y a pas Dieu et il y a Dieu. Et
C'est pour ça que vous pouvez être un athée croyant.
Voilà, par exemple. Et Rabbi Nachman de Breslav dit, mais comment on va résoudre cette contradiction de « il y a Dieu, il n'y a pas Dieu » Il dit, c'est le rôle du Messie de venir pour nous permettre de comprendre cette contradiction. Alors pour le judaïsme, on a de la chance, comme le Messie n'est pas encore arrivé. Donc la question, elle reste. Pour le christianisme, c'est au christianisme d'essayer de répondre à cette question. Mais cette question de l'incarnation de Dieu dans le livre pour la révélation a des conséquences, je dirais, existentielles de tous les jours. Pourquoi ? Parce que si Dieu s'est fait fini, a accepté de se faire fini dans le livre, quand j'ai le livre de la Torah en main, c'est que j'ai Dieu en miniature. J'ai Dieu qui s'est fait fini. Mais cette finitude du divin, c'est une prison de Dieu. Dieu est en prison dans le livre qu'il nous a offert. Et pour lui redonner son infini, on interprète le texte, parce que l'interprétation va devenir infinie, et c'est l'homme qui est responsable de l'infini de Dieu. Dieu sera à nouveau infini si l'homme, par son interprétation infinie, lui redonne son statut d'infinité.
Donc si je vous comprends bien, Rabbin Marc Alain Waknin, on ne peut jamais enfermer Dieu dans aucune définition définitive, mais on ne peut jamais traduire définitivement la Torah, ni l'interpréter de manière définitive.
Exactement.
Jamais.
L'interprétation, c'est une interprétation infinie. La lecture, c'est une lecture infinie. L'amoïd l'israneïn elephono Olamoï Yisroel asher shlofuni Afal pi sheini cheda Eloke Avraham, Eloke Yitzchak, Eloke Yaakov.
Alors, Rabbin Marc Alain Waknin, cela fait, depuis votre enfance, que vous étudiez la Torah, mais pas seulement la Torah, vous avez étudié le Talmud, vous avez étudié le Zohar, vous étudiez tous les textes du judaïsme, vous passez votre temps à étudier, à les traduire. Moi, j'ai envie de savoir en quoi toutes ces années d'études, toute cette vie penchée sur les textes, vous aident à vivre concrètement dans cette condition humaine qui est la nôtre.
Oui.
Et je vous vois sourire.
Oui, sourire parce que la question est bonne et la question me permet d'exprimer un plaisir qui est double. La différence entre une lecture, si vous voulez, simple, répétitive, où on relit le même texte sans l'interpréter, l'interprétation, ce qu'elle amène, ce que je le disais, je reprends une idée de tout à l'heure, elle amène de la joie. Il y a vraiment, à chaque fois que j'interprète un texte ou que je trouve une interprétation, mais je vais dire que ça amène une joie formidable. Je vous donnais un exemple, si je peux me permettre, qui est à la fois dans l'histoire de l'art, à la fois dans l'histoire du christianisme et à la fois dans l'histoire de la Bible. Je travaillais, donc j'enseigne actuellement je fais un commentaire avec mes étudiants sur une lecture talmudique des évangiles. Et on travaillait sur l'Annonciation. Et en parlant de l'Annonciation, je leur ai montré le tableau de Francesco del Cossa, que cite Daniel Arras dans « On n'y voit rien » et dans « Histoire de peinture », où au premier plan de cette annonciation, donc on a Gabriel à gauche et Marie à droite, au premier plan, mais vraiment au premier plan, il y a un escargot. Et tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que fait cet escargot, qui est d'ailleurs dans la diagonale la plus parfaite entre la main de l'ange et Dieu qui est de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Alors, bien sûr, l'interprétation première, c'est que Dieu aurait été très lent, comme un escargot, entre la chute, Adam et Ève, et la venue du Sauveur. On dit, mais pourquoi il a mis tellement de temps, alors qu'il aurait pu faire venir le Sauveur tout de suite? Moi, je donne une deuxième interprétation. Je dis, le tableau, c'est comme un texte, c'est comme une personne. Il faut prendre du temps pour pouvoir le lire, pour pouvoir entendre, pour pouvoir comprendre. Et l'auteur, Francesco del Cossa, nous rappelle avec l'escargot qu'il faut prendre ce temps. Vous voyez, ce lento, dit Nietzsche. Ce qui est très important, on y reviendra après sur la question de l'abstraction. Et puis, tout à coup, je dis, mais on a des outils pour interpréter. Si c'est un escargot, on est dans l'Annonciation, on est dans du théologique, on est dans un texte qui est écrit en grec, mais qui a été écrit avec des gens qui parlaient l'hébreu, on a la Renaissance. Comment se dit l'escargot en hébreu? Ça se dit Shabloul. Et à la Renaissance, déjà, par l'intermédiaire de la Kabbale juive, vous savez que chaque mot a en hébreu une valeur numérique, qu'on appelle la Gematria. Donc je demande aux étudiants, mais quelle est la valeur numérique de Shabloul, qui veut dire l'escargot? C'est 368. Et 368, c'est la Gematria, la valeur numérique, de Ruach Elohim Chaim, qui veut dire le souffle du Dieu vivant. Et c'est la valeur numérique du mot Meshri, qui veut dire mon Messie. Quand vous découvrez ça dans un tableau qui décrit l'Annonciation, qu'est-ce
donc,
que vous pouvez
jubilation
faire?
Jubilation de votre part.
Pas seulement. Jubilation de ma part, mais jubilation de tout le groupe d'études.
D'accord, mais ce peintre ne savait pas tout ça. Alors, donc il a déposé cet escargot.
Alors,
par hasard?
Il y a deux hypothèses. Moi, on est à la Renaissance, on est en 1470. Une décennie après, Pic de la Mirandole est en pleine expansion de son savoir. C'est la Renaissance est une Renaissance où il y a une place pour l'hébreu de manière extrêmement forte et en particulier pour la Kabbale. Je pense que les gens qui ont enseigné à Pic de la Mirandole, donc c'est des gens qui sont contemporains de Francesco del Cossa, avaient ce savoir et que il amène quelque chose dans l'histoire de la peinture, mais aussi dans la théologie, assez extraordinaire, tel que ce savoir-là.
Donc, par cet exemple, vous montrez, pour répondre à ma question sur en quoi l'étude des Écritures vous aide à vivre, la jubilation,
mais c'est pas fini.
Mais est-ce que c'est que ça?
Pas du tout.
Est-ce qu'il y a autre chose?
Bien sûr, parce que quand je découvre ça tout seul, chez moi, quand je prépare, par exemple, le cours, bon, ça me fait plaisir, mais quand je l'enseigne, quand je suis en face de personnes où je vois les visages s'animer, sourire, rayonner, je comprends qu'on est dans le partage.
La transmission.
Et la transmission et le partage, la joie du partage. Je crois qu'il y a encore une plus grande joie que celle de la trouvaille, c'est le partage de la trouvaille. Parce que s'il n'y a pas de trouvaille, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de partage. Mais le partage de la trouvaille, et là, je crois que c'est ça, si vous voulez, l'homme L'être humain, c'est un être qui est fait pour la relation. C'est-à-dire qu'au commencement, là, je suis très boubérien, si vous voulez, ou très, très Lévinas, Martin Buber, je et tu, au commencement, était la relation. Et l'humain est une, ontologiquement, c'est-à-dire dans son essence la plus forte, est un être de relation. Et quand on arrive à exprimer son humanité la plus profonde, cette ontologie de la relation, je pense qu'on touche à une fibre essentielle qui fait que on se sent humain. Et ça, ça amène à vivre. Ça, c'est une première chose. Mais il y a encore plein d'autres choses dans l'étude.
Alors, Marc-Alain Wachnin, il y a un philosophe que vous avez beaucoup étudié, que vous avez beaucoup aimé, qui est décédé en 1995, c'est Emmanuel Lévinas. Alors, je vais me permettre de vous poser une question énorme, parce que je sais qu'on pourrait passer des heures pour que vous répondiez à cette question. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel Lévinas vous a fait découvrir d'essentiel ? Qui, encore une fois, vous habite et vous aide à vivre?
Oui, il m'a fait découvrir deux choses essentielles, ou trois choses, enfin, une infinité de choses, mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est la manière dont je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré d'abord dans les livres, avant de le rencontrer personnellement. Et j'ai fait ma thèse sur Lévinas, avec Lévinas comme mentor, parce qu'il était déjà à la retraite. C'était Pierre Kaufmann, mon directeur de thèse. Mais j'ai rencontré son livre majeur, son grand œuvre, qui s'appelle « Totalité infinie », dans la bibliothèque de mon père. C'est-à-dire qu'il était, à ce moment-là, il était grand rabbin à Metz. Je suppose que le consistoire avait dû envoyer un exemplaire à chaque rabbin, parce que les livres ne devaient pas se vendre. À l'époque, Lévinas n'était pas connu. Donc, je lis ça et je suis ébloui. Je suis ébloui parce que je découvre des concepts qui sont très compliqués, mais qui sont des mots concrets, comme le mot visage. C'est quand même intéressant pour vous.
Ben, visage. C'est heureux de vous recevoir dans cette émission. Voir ce nom.
Voilà, visage. Parler du visage de l'autre, pour parler de l'autre, parler de son visage. Et puis tout à coup, il parle de caresse. Et je me dis, mais c'est quoi ce philosophe qui parle de visage, qui parle de caresse, même si c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des concepts comme la mêmeté, l'altérité. Et je rentre dans cette œuvre et je n'en suis jamais sorti, parce que Lévinas non seulement est un penseur avec des concepts d'une force extraordinaire, mais c'est un écrivain. Il voulait d'abord être écrivain. Il a une plume. Il a un style, il a un rythme. Même chez lui, chaque virgule, c'est déjà fascinant.
Et ce qu'il enseigne d'important, c'est la relation à l'autre.
Alors,
ça rejoint ce que vous
dites. Ce qu'il enseigne, c'est l'éthique. Mmh. Il enseigne la relation à l'autre, mais il fait véritablement comprendre ce qu'on appelle l'autre, ce qu'on appelle l'altérité. Le mot l'altérité, c'est un mot qui est complètement galvaudé aujourd'hui. Vous n'avez pas une conférence où on ne parle pas de l'autre, de l'altérité, d'autrui, de l'altérité, de l'autre, d'autrui. Enfin, on ne sait pas exactement de quoi ça parle. C'est devenu quelque chose comme une sorte de poncif, si vous voulez, alors que c'est quelque chose qui est très précis. L'altérité d'autrui, c'est aussi une contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un autre avec qui je suis en relation, mais étant donné qu'il est réellement autre, je ne peux pas être en relation avec lui, parce qu'il est autre. Et donc, la relation humaine avec l'autre, c'est une relation sans relation. Exactement un petit peu comme dans le Tzimtzum qu'on avait évoqué.
Ce qu'on dit tout à l'heure, Dieu qui se retire.
Voilà, Dieu qui se retire. Et chez Lévinas, l'autre est infini. Le visage de l'autre est infini. Ça veut dire que, et il y a une phrase qui est vraiment éblouissante, il dit « le visage parle ». Parce que tout le monde pense du visage, c'est regarder le visage, mais ça veut rien dire le visage. Le visage, dit-il, c'est pas les traits du visage, c'est pas les yeux. Le visage parle, ça veut dire que je ne sais rien de l'autre tant que l'autre n'a pas ouvert la bouche et a commencé à parler pour se dire. L'autre va se révéler, je ne peux pas projeter sur l'autre ce qu'il est, mais je dois avoir la patience d'être à l'écoute, qu'il puisse me dire ce qu'il est. Je vous donner une anecdote pour bien comprendre. Je faisais une conférence sur Lévinas il y a une vingtaine d'années, et au premier rang, il y avait une femme qui hochait la tête en disant non, 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 au premier rang, non, non, pendant 2 heures. Je vous dis, c'est un supplice, un calvaire. Parce que je me suis dit, j'ai essayé d'interpréter, ça doit être une des plus grandes spécialistes de Lévinas, Oxford, Harvard, je sais pas. Et je comprenais pas pourquoi elle était pas d'accord, alors que je pense que je connais bien cette pensée. Et elle vient à la fin de la conférence en hochant la tête pour dire non, mais comme ça elle fait non, 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 non avec sa tête. Et elle me dit, monsieur le rabbin, votre conférence était formidable. Donc, En fait, elle avait un tic de la tête qui faisait croire qu'elle disait non, mais c'est un tic. Et pour que je la comprenne, il a fallu que j'attende qu'elle me dise ce qu'elle avait à dire. Et donc, ce qu'on appelle l'altérité d'autrui, c'est ce que je ne peux pas comprendre de lui, mais que celui-ci seul va pouvoir me dire.
Mais encore une fois, alors l'importance de la parole.
L'importance est essentielle de la parole ou l'importance du signe. L'importance, on va dire, l'importance de l'expression. Et donc, de ce fait, je ne peux jamais saisir l'autre, jamais le comprendre en entier, puisqu'il échappe toujours de par son infinie altérité. C'est pour cela que Lévinas introduit ce mot magnifique de la caresse, puisque je vais vers l'autre, je m'approche vers l'autre, mais je ne le saisis pas, dans le double sens de saisir et comprendre, mais je le caresse.
Il y a beaucoup de proximité entre la relation qu'on peut avoir avec Dieu et avec l'autre. Quand on dit souvent que Dieu est le tout autre, oui, l'inconnaissable, l'au-delà de tout, comme disait Grégoire de Nazianze,
oui,
et puis ma femme,
oui,
les enfants,
oui,
qui sont aussi quelque part...
Oui, mais les enfants, la boulangère, moi, enfin toutes les personnes. C'est pour ça que Lévinas a élevé. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est pas que il fait de Dieu un homme, c'est qu'il fait des hommes des dieux. C'est-à-dire que il rend à chaque humain sa dimension d'infini, d'où sa dimension de dignité, d'une dignité qui va être très importante, qui va être aussi leur verticalité. Et il y a vraiment une sorte de nouveauté, si vous voulez, il y a un basculement théologique, puisque on a vraiment une relation à l'autre qui est infinie. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui me porte vraiment jusqu'à aujourd'hui.
Visage, RCF.
Alors, Marc-Alain Wachnin, parlons maintenant de ce dernier travail, pas ultime, mais ce plus récent travail que vous avez mené, cette traduction de la Genèse. Il faut dire que vous travaillez sur la traduction de l'intégralité de la Torah. Et là, vous venez de travailler sur les 11 premiers chapitres de la Torah, la Genèse de la Genèse. Tel est le titre de ce livre que vous publiez aux éditions Diane de Sellier. Un livre qui est illustré par des artistes de l'abstraction, Kandinsky, Paul Klee,
Malevich,
Yves Klein, bref, un grand nombre d'artistes. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle de ce texte, de ces 11 textes, de cette traduction. Vous dites, dans l'introduction de ce livre, il n'y a rien de juif dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Adam et Ève ne sont pas juifs, ni Caïn ni Abel. Le commencement de la Bible est universel.
Oui.
Alors dites-nous, expliquez-nous ça, parce que ça va surprendre là aussi.
Ben c'est vrai. C'est vrai que ça va surprendre, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de juif. Quand ces textes sont écrits pour la première fois, alors bien évidemment, je me situe du côté du rabbin historien ou de l'historien rabbin, c'est-à-dire je prends en charge toutes les découvertes philologiques de qui a écrit la Bible. Aujourd'hui, on est presque sûr que c'est Ezra ou, enfin la Bible, quand je dis la Bible, oui, c'est l'ensemble Ezra ou son école.
Donc là, on est au 6e siècle avant
Alors,
Jésus-Christ.
Alors, on est au 5e siècle. Mais c'est important de le redire parce que sinon, on ne comprend pas du tout ce propos. En moins 500, donc, on reprend jusqu'à Salomon. Salomon, c'est le moins 10e siècle. Salomon va mourir. Et il va y avoir un schisme à la mort de Salomon, où il va y avoir deux royaumes qui vont se créer, le royaume du sud qu'on appelle le royaume de Juda, et le royaume du nord qu'on appelle le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël va avoir une capitale qui s'appelle Samarie, qui va être détruite en 732, et les 10 tribus du royaume du nord vont disparaître à tout jamais, elles n'ont jamais réapparu jusqu'à aujourd'hui. Il reste donc le royaume de Juda, deux tribus. Nabucodonosor, en 586, fait le siège de Jérusalem, détruit le premier temple et emmène avec lui l'élite, à la fois royale, pontificale et intellectuelle, les amène à Babylone. Et donc c'est l'exil de Babylone qui va durer jusqu'en moins 536. En 536, donc 50 ans plus tard, il y a l'édit de Cyrus. Donc Cyrus, roi des Perses, renverse le royaume babylonien, Nabucodonosor, et Cyrus va dire les Judéens, parce que juifs, ça veut dire en fait judéens, ceux qui viennent du royaume de Juda, peuvent retourner à Jérusalem et peuvent reconstruire le temple. Et ce qui est très important, c'est que Pendant ce temps-là, 50 ans, ça fait déjà presque 2-3 générations, puisqu'il se mariait jeune et il mourait vite, les Judéens se sont intégrés, il y a eu une intégration à la culture babylonienne, mésopotamienne.
Et quand c'est là qu'ils ont intégré énormément de mythes babyloniens dans leur propre culture.
Exactement. C'est-à-dire que c'est là que ils se forment. Ils se forment, et puisqu'on parle d'élite, il faut pas oublier que ce sont des princes, ce sont des prêtres, ce sont des scribes, et donc ils vont se former dans les écoles babyloniennes, ce que j'appelle dans les écoles de scribes babyloniens, où on apprend les mathématiques, la géographie, l'histoire, la littérature, les grands mythes, etc. Et je montre, ça a été une très grande découverte pour moi, que je fais partager, que ces 11 premiers chapitres de la Genèse, écrits par Ezra, Ezra va rester en Babylonie jusqu'en moins 450, parce qu'il va vivre très très longtemps, et les chapitres que nous avons ici, ce sont en fait des traces de manuels scolaires, où on apprenait la géométrie, la géographie, les mathématiques. Et j'ai montré comment, par exemple, dans chaque chapitre, c'est un élément différent du manuel scolaire. Par exemple, vous avez des généalogies à n'en plus finir dans le chapitre 5. Ça ne sert strictement à rien. Un tel a vécu tant. Au bout de temps, il a eu tant d'enfants. Après avoir des enfants, il a vécu tant. Et donc, en tout, il a vécu tant. Et puis, c'est répété 50 fois. Et je montre que à chaque fois qu'on parle « il a vécu tant », etc., c'est une opération mathématique qui était des exercices pour les étudiants scribes où on apprend à la fois l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Mais alors, Marc-Alain Wacklin, vous voulez dire que ce texte qui est fondateur, aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens, ces textes des origines, c'est un mythe. Vous utilisez le mot mythe.
Oui.
Ce texte sacré, que l'on dit sacré, est finalement un texte mythique. Qu'est-ce que vous mettez sur le mot de mythe?
Alors, le mot de mythe, je mets un terme générique qui est un terme grec. Mutos, ça veut dire la parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est raconté. C'est un récit. Mais ce que je souligne, c'est que pourquoi la Torah et l'Ancien Testament pour les chrétiens est universel? Parce que ce n'est pas un livre de théologie dans son fondement, quand ça commence, et c'est surtout un livre, je dirais, de coalition des cultures. C'est-à-dire que être, on parlait de la relation tout à l'heure, Lévinas, et ça, Lévinas, vous m'avez demandé ce qu'il m'a appris en dehors de l'altérité d'autrui. Ben, il nous apprend, et en dehors de l'interprétation, parce que c'est un très grand talmudiste, il a appris cela avec Monsieur Chouchani, un de ses maîtres, c'est que, en dehors de la relation à l'autre, c'est que la relation à l'autre, c'est une coalition de cultures. C'est-à-dire que si je n'étais que dans ma propre culture, si je ne suis que juif, ben, je suis enfermé dans ce judaïsme. Si je suis que chrétien, je suis enfermé dans mon christianisme. Être homme dans une tradition théologique, religieuse ou culturelle, c'est être dans une tradition culturelle vivante, c'est être ouvert à une autre culture, et dans cette confrontation avec cette autre culture, féconder encore un troisième moment de la culture, quelque chose de très dialectique, même si je ne suis pas du tout hegelien. Mais je pense que la notion de culture, une culture est vivante parce qu'elle rencontre une autre culture. Et ce que veut dire le texte de la Genèse, c'est que je vais vous parler d'une histoire très particulière d'une famille qui est la famille de Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jacob, etc., qui va constituer un clan, qui va constituer des tribus et un peuple. Attention, ce peuple ne pourra exister, ne pourra être vivant que s'il est dans la rencontre préalable avec une autre culture. Et qui dit rencontre préalable avec une autre culture, dit rencontre avec une autre langue. Et la traduction, c'est-à-dire le bilinguisme, si vous voulez, là aussi est ontologique à la Bible. La Bible n'existe que d'être le lieu d'une traduction. Et c'est pour cela que quand on la traduit après, c'est pas simplement pour faire connaître les propos de la Bible, c'est continuer à donner à la Bible l'expression de son essence qui est la traduction. Comme le dit très bien Walter Benjamin, dans la tâche du traducteur, il parle de, pour la traduction, de Überleben et de Fortleben, c'est-à-dire de survivre. La traduction, elle permet de survivre.
Mais alors, Marc-Alain Wachnin, pourquoi avons-nous si peur de cette différence et de cette richesse de la différence? Tout ce que j'entends depuis le début, à travers les traductions, à travers votre lecture de la Genèse, de tous les textes, où vous nous dites, mais cette différence nous enrichit les uns des autres. C'est cela que nous devons rechercher.
Oui.
Et pourtant, vous le voyez bien, sur la Terre, partout, dans tous les conflits, que ce soit israélo-palestinien ou en Birmanie, on a peur de l'autre, on a peur de la différence. Mmh. Pourquoi ?
Moi, je dirais que c'est le politique qui défait cette éthique fondamentale.
Mais le politique, c'est l'homme.
Oui, mais l'homme peut être dans des dérives. Je dirais que quand on est boubérien, c'est-à-dire que quand... vous voyez, par exemple, les élèves de Boubère en Israël, ils sont tous dans un dialogue avec pro-palestiniens. Enfin, pas pro-palestiniens, parce que ça veut rien dire, parce que quand on dit pro-palestiniens, ça veut dire, ici en France, on est dans la gauche, l'extrême gauche, mais qui dérive très vite en antisémitisme, avec des mélanges très compliqués. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans cette philosophie de l'altérité, on est à la fois très confiant dans sa propre culture, et c'est cette confiance extraordinaire dans sa propre culture qui donne tellement d'assises qu'il y a une ouverture aussi grande dans l'autre qui fait que on peut, je veux dire, tous mes élèves et enfin tous les gens que je connais, je fréquente, sont dans ce dialogue permanent avec l'altérité. Je pense que si on n'est pas dans cette ouverture, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'inscription dans sa propre culture. C'est-à-dire que on rêve d'une culture qu'on ne connaît pas. Et on a peur que, comme on ne la connaît pas, on a peur que la culture de l'autre nous empêche d'avoir notre propre culture. Mais plus on est fort dans sa propre identité, plus on est ouvert à l'identité de l'autre. Ce que disait souvent Ricoeur aussi.
Il nous faudrait des heures, Marc-Alain Wachnin. Je regrette qu'on ait que 55 minutes pour cette émission. Mais j'aimerais qu'on passe un tout petit moment sur la notion d'abstraction. Parce que je le disais, ce livre, La Genèse de la Genèse, que vous avez traduite, est illustré par l'abstraction. En quoi la peinture abstraite d'un Paul Klee, d'un Kandinsky, d'un Mondrian, peut nous aider à mieux comprendre, mieux entrer dans le mystère de la Bible et de la Genèse.
Alors ça, c'est une grande découverte que j'ai la chance de faire, et c'est Kandinsky qui m'a fait découvrir ce secret de la peinture abstraite dans son livre qui s'appelle « Du spirituel dans l'art » et dans la peinture en particulier. Et je renvoie aussi à la très belle préface de un monsieur qui s'appelle Serres, S-E-R-S. Il dit « Chez Kandinsky, la notion principale, centrale, c'est celle du temps ». Et Kandinsky découvre le temps dans la peinture, il le découvre en regardant Rembrandt à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Et il dit, quand je regarde un tableau et que je passe très rapidement devant un tableau, je vois pas tout ce que le tableau peut m'apprendre. Regarder, je parlais de l'escargot tout à l'heure, c'est prendre le temps de regarder. Et alors il dit, regarder un tableau, c'est prendre une chaise et rester une heure, deux heures, trois heures, etc.
Mais devant un tableau abstrait, on n'est plus du tout dans des images très précises.
Oui, mais là
on est perdu quelque part.
On est perdu, mais là je parle maintenant du tableau concret ou abstrait. C'est tout simplement, il faut prendre le temps. Et j'ai formulé cette idée, qui est l'idée de Kandinsky. Il dit, l'abstraction, c'est s'abstraire de la pulsion de l'immédiateté de la compréhension. C'est-à-dire que l'abstraction, c'est pas une question de figuratif. On fait une erreur en pensant abstraction qui serait le contraire du figuratif. C'est pour ça qu'il y a même du figuratif dans les tableaux qu'on a montrés chez Paul Klee. C'est que l'abstraction, c'est un moment de l'histoire de la peinture où on s'est défait du figuratif pour apprendre, réapprendre au regard, à regarder, c'est-à-dire apprendre le temps. Comme il n'y a rien à voir, ben il faut prendre le temps pour essayer de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait rencontrer le texte, et le texte devient un texte abstrait. C'est le texte de la Genèse, comme le texte de la Bible, comme le texte de l'Évangile, c'est abstrait. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que devant un texte, je dois apprendre, réapprendre à entendre, c'est-à-dire je dois prendre le temps et m'abstraire de l'immédiateté de la compréhension. Quand je dis « au commencement Dieu a créé le ciel et la terre », ben ça je répète une traduction qui a été faite 1000 fois. Est-ce que j'ai pris le temps de lire le texte, de regarder tous les commentaires, d'entendre toutes les intertextualités, d'entendre toutes les résonances? Si oui, eh ben je suis devant un texte abstrait et je vais pouvoir entendre quelque chose que je n'ai jamais entendu.
D'où le tout début de la Genèse, premièrement, point. Et ce point est aussi important. Mais ça, je laisse ceux qui vont se plonger dans votre livre comprendre ce point qui marque le temps et l'arrêt. Merci beaucoup, Rabbin Marc-Alain Wachnin. J'étais très heureux de vous recevoir.
Merci beaucoup, Thierry Lyonnais, de cette invitation.
Et puis, je renvoie bien sûr à ce livre, La Genèse de la Genèse, que vous avez publié aux éditions Diac de Célier. Un travail monumental à la fois de traduction, de commentaires et puis de sélection d'œuvres d'art, et notamment avec toute l'équipe des éditions Diac de Célier.
Magnifique équipe.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.